Direct en jeu, la radio insolite, spécialisée en tourisme et loisirs, spécialisée en culture. Nous sommes aussi très marqués par un devoir de mémoire qui est important. Et devoir de mémoire, c'est au mois d'avril à chaque fois, parce qu'il y a quand même eu des choses importantes qui se sont passées. Évidemment, quand même, je pense au 6 avril 1944 et la fameuse rafle qui s'est déroulée. Et là, j'ai la chance, j'ai le bonheur d'être avec Stéphanie Boissard, qui est responsable recherche, archives et documentation à la Maison d'Izieux. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Alors, tout le monde connaît la Maison d'Izieux, mais malgré tout, je préfère à chaque fois, comme hier, qu'on représente qu'est-ce que c'est que la Maison d'Izieux.
Alors, la Maison d'Izieux, aujourd'hui, c'est un lieu de mémoire et d'histoire qui reçoit de nombreux visiteurs, des plus jeunes aux plus anciens, et qui, en fait, a pour mission, à partir de l'histoire de la colonie des enfants d'Izieux, qui s'est installée en mai, au printemps 43, qui a donc accueilli des enfants qui étaient juifs majoritairement et qui, à cause des lois de Vichy et de l'occupant allemand, étaient persécutés parce que juifs. Et donc Sabine Zlatin et son époux Miron Zlatin ouvrent cette colonie vraiment pour protéger ces enfants et accueillent jusqu'à plus d'une centaine d'enfants qui vont passer par la maison, dont une bonne soixantaine vont être sauvés. Et puis, il y a la rafle qui arrive début le 6 avril 1944. C'est l'arrestation de cette colonie. Les camions allemands montent jusqu'à Izieux, qui est un endroit, alors vraiment, c'est un bout du monde, Izieux. C'est tout à fait isolé, mais bon, ils trouvent le chemin pour arrêter des enfants parce qu'ils sont juifs. Voilà. D'accord. Et bien sûr, c'est Klaus Barbie qui a ordonné ça. Je crois que tout le monde le sait. Mais bon, je le redis, c'est Klaus Barbie qui a donc ordonné la rafle des enfants d'Izieux.
Alors, tout le monde le sait, mais tout le monde ne sait pas qu'en fait, à l'origine, Klaus Barbie ne voulait pas, ne reconnaissait pas cela. Et il a été piégé parce que je crois qu'il avait sorti un télégramme où justement il donnait les consignes.
Oui, tout à fait. Et ben, ce fameux téléx, c'est vraiment c'est le téléx d'Izieux, oui. En fait, que Klaus Barbie, envoie à ses supérieurs pour dire à quel point il a bien fait le travail et comme tout a bien fonctionné et qu'il a bien arrêté des enfants et des adultes. Voilà. Et ce téléx, en fait, c'est une pièce fondamentale qui nous relie directement, à l'exposition qui est accrochée actuellement dans la galerie Zlatin. Parce que c'est une des pièces qui va être citée, reconnue comme preuve, au procès de Nuremberg, dont il est question justement dans cette nouvelle exposition.
Alors justement, l'exposition s'appelle Nuremberg à travers le regard de Monsieur et Madame Debenet. Qui sont ces deux personnages, Delphin et Simone ?
Alors, Delphin et Simone Debenet, c'est un couple de personnes, je dirais, qui ont vécu la guerre. Delphin Debenet, lui, il a été résistant. C'est un magistrat. Il a vraiment un profil particulièrement, on va dire, rare, mais pas si courant, du moins. C'est-à-dire que c'est un magistrat qui, dès 41, s'engage dans la résistance. Et donc, il va être arrêté il va être interné à Buchenwald. Et ensuite, il va s'évader il va retrouver l'armée anglaise. Mmh. Et donc, il va être libéré. Voilà. Et il faut voir que lui, il est à partir de mai 45, il est donc libéré et il retrouve. Poitiers, où il était, et Niort. Mmh. Et donc, et peu de temps après, ce magistrat va être sollicité pour faire partie de l'accusation française à Nuremberg. C'est-à-dire qu'on prépare le procès de Nuremberg, qui a été décidé dès août 45, et on fait appel à lui. C'est-à-dire qu'on le nomme avocat général, et il part à Nuremberg pour... travailler dans l'accusation française, réunir les preuves, préparer les dossiers qui sont ensuite présentés au tribunal et faire ce travail de justice contre ces grands criminels de guerre.
D'accord. Alors,
Alors, son épouse, me direz-vous, pourquoi son épouse?
Oui, merci.
Eh bien, tout simplement parce que Monsieur de Benet, il sort quand même de Caen, hein, vous noterez, mai 45, dès novembre, octobre-novembre 45, eh bien, il est à Nuremberg. Donc, très peu de temps pour se remettre d'un internement qui est quand même très sévère. Et on peut supposer que son épouse ait eu à cœur aussi de le retrouver à Nuremberg. Elle va y rester le mois de février, en gros, 46, un petit mois, voilà. Et elle le retrouve là-bas. Donc, c'est vrai que Delphin de Benet sortait de Caen, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier.
D'accord. C'est une expo photo, en fait, qui est présentée.
Alors, photo, et pas que, je dirais, parce que on a aussi, alors, Simone de Benet, donc, est une jeune femme, bon, elle a deux enfants, elle confie ses enfants à sa mère, et elle part courageusement à Nuremberg retrouver son époux. Et puis, alors là, elle va rencontrer un monde, vous savez, on est dans l'après-guerre, hein, il y a encore tout ce qui est le rationnement, rien n'est simple, l'Allemagne est un pays, et Nuremberg notamment, détruit, et puis, elle a connu la guerre, elle a connu les rationnements, elle a connu les difficultés, hein, et elle arrive là, et là, elle va rentrer, enfin, si vous voulez, elle rentre par les coulisses dans ce procès. Hein. Donc elle est, comment dire, elle fait partie de ces personnes qui côtoient la délégation française, mais aussi la délégation anglaise qui est présente. Hein. Il faut bien voir que ce procès, il a fallu une intendance incroyable, assumée par les Américains, hein, qui étaient les seuls à avoir les moyens de mettre en place tout ce qui est de l'ordre de la nourriture, tout ce qui est de l'ordre de l'intendance, des automobiles, des déplacements, des logements. Enfin, c'est vraiment une énorme. On ne pense pas toujours à cet aspect d'intendance énorme, mais les Américains font un travail incroyable pour arriver à mettre sur pied ce procès et qu'il ait lieu, hein, techniquement. Et donc, Madame de Benel va être confrontée à ce milieu un peu étonnant, différent, pas courant quand même d'être au sein d'une délégation étrangère dans un pays pour ce fameux procès. Et puis surtout, elle va assister aux audiences. Elle est tout à fait passionnée, intéressée par ce qui se passe. Et elle fait des dessins. Elle croque ce qu'elle voit quand elle est dans la galerie des visiteurs. Donc on a ces dessins-là. Et ça, c'est quand même quelque chose de très... d'abord très émouvant, parce qu'on voit le trait de cette dame, on voit ses dessins. Mmh. Elle prend des notes aussi, hein, donc elle a des réactions par rapport à ce qu'elle entend. Hein, voilà, c'est cet aspect-là. C'est pour ça qu'on a choisi de dire le regard, parce que c'est vraiment de l'intérieur, vous voyez, que l'on parle du procès, de l'aspect de l'intendance, de la vie quotidienne... des loisirs aussi, d'une vie, comment dire, qui dénote après-guerre. Hein. Elle parle d'une légèreté qui interroge ou surprend à côté de la gravité de ce qui se dit dans la salle d'audience et de la gravité de ce qui est jugé. Et ben, tout ça, ça nourrit en fait cette exposition.
Alors, ce qui est important aussi, ce qui est important aussi, c'est que c'est quelque chose à ne pas rater, étant donné le fait que, si je ne dis pas de bêtises, ce fameux album qui contient 115 clichés, il y a un seul exemplaire qui se trouve à la bibliothèque du Congrès à Washington. Il n'y a pas de traces d'autres albums, d'après ce que j'ai compris.
Alors, écoutez, à aujourd'hui, vu les recherches que nous avons faites, effectivement, j'ai pu identifier un seul album qui m'a été confirmé par les collègues de la Bibliothèque du Congrès à Washington qui m'ont envoyé effectivement les photos, qui ont reconnu le même album. Donc voilà, on en a identifié un et on a cherché aussi du côté, évidemment, il y a quatre nations hein, qui jugent à Nuremberg et on supposait qu'il y avait au moins un exemplaire auprès du juge anglais et un auprès du juge russe et un auprès le juge américain. On a trouvé. En fait, c'est celui qui est à la Bibliothèque du Congrès probablement. Et que Jackson, c'est lui hein, qui est à l'origine de cet agenda où il y a 115 photos qui relatent, c'est vraiment l'album souvenir, vous voyez, mais du procès. Donc on voit certains accusés, on voit la brochette de juge, je dirais, devant son banc, on voit la salle, et puis on voit la prison aussi, vous voyez, c'est vraiment un album souvenir de cet événement incroyable. Et c'est Jackson, donc le procureur américain, qui l'offre en juillet 46 à Henri Donnedieu de Vabre. Alors pourquoi, à part le fait que c'est manifestement un album souvenir, que et il y a une dédicace, etc. Et il y a les signatures des autres juges, du procureur aussi américain. Et on cherchait, on se dit évidemment, les autres juges ont eu aussi un exemplaire. Pourquoi le juge français serait le seul à avoir un exemplaire qui en plus est frappé en lettres d'or à son nom sur la couverture en cuir, vous voyez. Donc vraiment, c'est un objet privé. Enfin, on sent que c'est le cadeau destiné à une personne précisément. Et on a retrouvé, hélas, qu'un seul exemplaire. Pour le moment, je n'ai pas pu retrouver d'autres exemplaires. On avait commencé à faire les recherches auprès des Russes, mais vous comprenez bien qu'avec depuis 3 ans, on peut plus chercher dans les fonds russes et dans les fonds anglais. Ma foi, on n'a pas encore abouti. Et comme c'est un objet, voyez, que l'on sent assez personnel, comme un cadeau personnel, pas quelque chose d'institutionnel, on dirait, eh bien, on suppose que peut-être il se trouve dans une famille, mais c'est plus difficile à identifier que dans un fonds officiel, bien sûr.
D'accord. Alors la question...
Voilà, on cherche toujours.
Ouais. La question n'est pas de moi, je la trouve très originale. Elle est sur le site internet du musée mémorial. C'est pourquoi une exposition sur Nuremberg à Izieux?
Ah bah oui. Alors effectivement, nous de l'intérieur, ça nous paraît évident, mais tout simplement parce que à Nuremberg, on parle d'Izieux. Dès l'acte d'accusation, Izieux est nommé comme l'un des exemples des sévices et des persécutions qui ont été faites contre les civils, et notamment les enfants. Et puis c'est aussi à Nuremberg qu'on fonde la définition du crime contre l'humanité, et la rafle d'Izieux est emblématique de la définition du crime contre l'humanité. C'est quelque chose contre des enfants, éminemment des civils, éminemment pas des militaires. Donc effectivement, c'est l'archétype de la définition du crime contre l'humanité. Et donc on a choisi vraiment de centrer, parce que cette année on est aussi aux 80 ans du procès de Nuremberg, que nous avons ce lien fort avec ce premier grand procès qui fonde aussi la justice pénale internationale. Ensuite, il y aura le procès Barbie, bien sûr, mais avant, il y a eu Nuremberg. Et parce qu'on cite Izieux, tout simplement. Et le Telex, dont je vous ai parlé au début, qui fait le lien, bien sûr, avec le procès Barbie et l'histoire d'Izieux, eh bien, il est lu intégralement à Nuremberg, en février 46, par le procureur français, et retenu comme preuve, effectivement, par les juges. Donc, vraiment, l'histoire d'Izieux est intimement liée, effectivement, à la notion de crime contre l'humanité. Et ça fait partie des missions de la Maison d'Izieux, d'informer, de travailler sur le crime contre l'humanité.
Voilà. Cette expo, elle est accessible à tous, aussi bien aux enfants qu'aux parents?
Oui, vraiment. Alors, pour les enfants, on est d'accord que c'est un sujet qui peut paraître ardu, difficile, un peu austère quand même. Et donc, on a rendu au plus accessible, d'abord l'exposition, c'est quelque chose qui relate de l'intérieur. On est vraiment à travers le regard de Madame de Benet, de Monsieur de Benet aussi, mais qui lui a une approche très juriste, très raisonnable, alors que elle est plus sur, c'est normal, elle n'est pas juriste, elle n'a pas de fonction particulière, elle vit vraiment ce qu'elle entend, les horreurs, qu'elle a pu entendre dans la salle d'audience, et ce qu'elle regarde tous les jours, de la vie quotidienne. Et donc ça, c'est très émouvant, et ça nous la rend proche, et nous, on accède à ses remarques, elle prend des notes à côté de ses dessins. Et c'est ce côté très très humain, il y a beaucoup d'émotions aussi à travers ces dessins. Et donc, et on a aussi facilité donc l'approche et de ce contenu qui peut paraître austère. Pour les enfants, il y a un livret d'accompagnement pour l'exposition, avec des anecdotes, des remarques, des petites recherches, des jeux. Et puis il y a aussi l'application numérique. Comme vous savez, chaque fois que nous faisons une exposition dans la Galerie Zlatin, toujours cette exposition est accompagnée d'un écran numérique. Et donc, avec par exemple, on grossit les photos que l'on montre, on rajoute des informations sur les personnes dont on parle, on amène plus par l'image, au travers de cet écran numérique, des contenus qui sont tout à fait abordables, accessibles, et qui rendent encore plus clair ce sujet qui peut paraître un petit peu ardu, il est vrai. Voilà. Donc oui, on fait en sorte que ce soit tout à fait accessible pour toute la famille, vraiment.
Qu'est-ce qui va se passer ce dimanche, le dimanche 6 avril?
Alors, ben, c'est la journée la plus importante de la Maison des Yeux, je dirais, au fil de notre agenda commémoratif de l'année. Donc, c'est la commémoration de la rafle. Donc, nous allons commémorer il y a la première commémoration à Brégnier-Cordon, hein, devant le monument de Brégnier. Ensuite, la commémoration se fera à Izieux, devant la maison, devant la stèle des noms, avec l'appel des noms. Et donc, ensuite, l'après-midi, nous aurons l'inauguration de cette exposition,
D'accord.
en début d'après-midi, à 13h30.
Et
Voilà.
c'est ouvert à tout le monde. Et l'exposition commence donc le 6 avril. Elle va durer jusqu'à quand?
Alors, elle se termine le 31 août,
D'accord.
à la fin de la saison estivale.
D'accord. Et c'est tous les jours?
Oui, c'est ouvert à partir de juillet, juillet-août, tous les jours. Et d'ici la saison estivale, c'est ouvert l'après-midi. Mais tout est sur. J'invite vraiment à se reporter à notre site internet qui permet de réserver les visites et d'avoir toutes les informations très précises jour par jour.
Très bien, ben voilà, c'est ce que je voulais savoir, c'est comment on avait des informations. Donc le site internet de la Maison d'Izieux.
Ah oui, c'est fondamental, absolument, oui.
Merci en tout cas d'avoir expliqué tout cela et
Merci à
puis
vous, vraiment.
bonne préparation de cette inauguration. Merci.
Merci.